Diamo inizio alla conferenza di questa sera. Abbiamo come ospite il professor Patrick Delobier, direttore del Dipartimento di Sociologia nell'Università di Ginevra. La conferenza di questa sera è conclusiva di un ciclo di incontri dedicati alle tematiche e alle problematiche della dottrina sociale della Chiesa, che quest'anno hanno visto un lavoro più sistematico e più organico rispetto a quello che già il nostro centro aveva iniziato alcuni anni or sono. È nostro intento, insieme con l'Associazione per la Dottrina Sociale Cattolica, di proseguire per il prossimo anno con modalità differenti che saranno annunciate per tempo. Questa sera, appunto, con il professore, sarà l'occasione di fare una sintesi di ciò che costituisce la dottrina sociale cattolica come sua origine, come suoi fondamenti filosofici. Il professore appunto non è solamente sociologo, storico, ma è anche un attento esaminatore, un attento conoscitore del pensiero della filosofia. Questa sera farà ampi cenni sui fondamenti di questa attenzione della Chiesa alle problematiche sociali che affondano le loro radici non solo come comunemente si pensa durante lo sviluppo della civiltà industriale, ma è un'attenzione ben presente fin dai primi secoli e questa sera il professore ce ne darà prova e spiegazione. La prima parte del suo intervento verterà dunque l'origine patristica e gli sviluppi poi storici della dottrina sociale. Potrà seguire subito una serie di domande e osservazioni a questo primo intervento di Patrick Delobier. Una seconda parte ci fornirà questa sera, dovuta a un suo viaggio in Unione Sovietica, invitato dal movimento sindacale a parlare dell'esperienza operaio, operaistica, e vorrebbe raccontarci, e saremmo tra i primi a poterlo ascoltare, di questa sua esperienza, di questa sua valutazione delle problematiche sociali in Unione Sovietica. Questa parte di testimonianze, di racconto, sarà il finale di questa sera. Quindi lascerei, una volta indicata questa modalità, subito la parola al professore, ringraziandolo da subito con un applauso per essere intervenuto.
Vous prenez un certain risque à applaudir avant.
Rischiate applaudendo prima che io cominci.
Alors, je commence d'abord par regretter de ne pas pouvoir m'exprimer en italien. Grâce à Gian Franca, l'obstacle va être surmonté. Et ce qui introduira un petit décalage, mais j'espère qu'on y gagnera en approfondissant précisément un thème qui est par certains côtés assez austère.
Mi spiace non potermi esprimere in francese, questo porterà alcune difficoltà, di non poter esprimermi in italiano, questo porterà qualche difficoltà nella comprensione, una certa perdita di tempo, ma questo potrà forse farci approfondire in modo preciso un tema che di per sé è austero.
Alors, je commence par dire que je suis très content de parler ici à Milan. J'avais eu l'occasion à quelques années de venir à l'Université catholique.
Sono contento di parlare a Milano, è la seconda volta, ho già parlato infatti all'Università Cattolica.
Parce que nous avons, il y a 2 ans maintenant, avec quelques amis, créer une université volante internationale pour l'enseignement social chrétien.
Perché ormai da 2 anni con alcuni amici ho creato un'università volante per l'insegnamento sociale cristiano.
Qui est maintenant répandue dans 14 pays.
Diffusa ormai in 14 paesi.
Et nous aurons la réunion du comité à Milan au mois de novembre prochain.
E nel mese di novembre prossimo avremo la riunione del comitato.
Alors, comme on vous l'a dit, comme il y a un instant, mon exposé aura donc 3 parties. Dans une première partie, je ferai un rappel sur la struttura dell'insegnamento sociale cristiano.
Come vi è già stato preannunciato, questo mio intervento sarà articolato in tre parti. Una prima parte sarà un richiamo sulla struttura fondamentale dell'insegnamento cristiano.
La struttura e il dinamismo dell'insegnamento sociale cristiano.
La struttura e il suo dinamismo.
Et puis ensuite, je parlerai plus particulièrement de la dernière encyclique.
Poi parlerò in modo particolare dell'ultima enciclica.
Et puis, comme on vous l'a dit, pour terminer, j'évoquerai cette expérience en Union soviétique et je me demanderai quel sera l'apport possible des chrétiens de l'Est dans ce domaine.
E per concludere vi racconterò questa mia esperienza recente nell'Unione Sovietica, per concludere appunto domandandomi quale potrebbe essere il contributo dei cristiani dell'Est.
Disons que depuis quelques années, depuis 4 ou 5 ans, on observe un renouveau d'intérêt pour l'enseignement social chrétien.
Per cominciare dirò che da alcuni anni, da 4-5 anni, c'è un ritorno di interesse nei confronti dell'insegnamento sociale cristiano.
Et je me demanderai dans un instant pourquoi est-ce qu'on a eu pendant une vingtaine d'années ce déclin d'intérêt pour l'enseignement social chrétien.
E tra poco mi domanderò per quale motivo ci sia stato invece nel ventennio precedente un declino dell'interesse verso di ciò.
Enfin, une dernière précision avant de commencer vraiment. Je me concentrerai sur l'enseignement social de l'Église catholique, mais j'évoquerai aussi l'apport ou les différences du point de vue protestant et du point de vue orthodoxe.
Et ultima precisazione, prima di cominciare veramente, io mi soffermerò soprattutto sull'insegnamento sociale cattolico, limitandomi però ad evocare almeno il contributo dell'insegnamento sociale delle chiese protestanti e ortodosse.
Alors, schématiquement, on peut d'abord commencer par dire que l'enseignement social chrétien ne débute pas il y a un siècle avec Léon XIII.
Prima di tutto occorre dire in modo schematico che l'insegnamento cristiano non comincia un secolo fa con Pio IX.
Et commence dès le début de
Léon XIII, scusate.
Et commence dès le début de l'histoire de l'Église et on peut considérer trois piliers fondamentaux.
Nella storia della Chiesa, infatti, esso può essere visto secondo tre pilastri fondamentali.
Le premier pilier, ce sont les pères de l'Église. Ils sont une quarantaine à peu près.
Il primo sono i padri della Chiesa, che sono circa una quarantina.
Le deuxième pilier, c'est la scolastique médiévale.
Il secondo è la scolastica medievale.
Et le troisième pilier, ce sont les papes modernes depuis environ 100 ans.
E il terzo sono i papi moderni dell'ultimo secolo circa.
Alors, je vais caractériser ces trois moments de cette genèse de l'enseignement social chrétien et catholique très précisément. Alors, avec les pères de l'Église, on a une approche pastorale.
Allora, caratterizzerò questi tre pilastri. Con i padri della Chiesa, l'approccio al problema sociale è pastorale.
Alors, ça se résume, si vous voulez, à une idée force. Il y a des riches, il y a des pauvres. Il faut que les riches partagent avec les pauvres.
Che si riassume, può essere ricondotto a un'idea portante. Ci sono i ricchi, ci sono i poveri. I ricchi devono condividere con i poveri.
Pour les pères de l'Église, il n'y a aucune, si vous voulez, conception d'une croissance possible. La richesse est une donnée stable. Et ceux qui ont plus prennent sur ceux qui ont moins.
Non c'è nella concezione cristiana l'idea di un accrescimento delle ricchezze, ma c'è come un'idea di una certa stabilità, chi ha si schiaccia in un certo senso chi non ha.
Donc aucune idée d'un accroissement possible de la richesse pour permettre une lutte contre la pauvreté, c'est simplement une richesse qui est fixe et qui devra être partagée. Et on demande aux riches précisément de donner ce qu'ils ont en trop, ou même ce qu'ils ont en abondance.
Non c'è cioè un'idea di un possibile accrescimento della ricchezza che possa aiutare a combattere la povertà di chi è povero, appunto. C'è semplicemente quest'idea della ricchezza come un di più che hanno i ricchi e si domanda ai ricchi di dare ai poveri ciò che hanno in sovrappiù.
Il faut souligner au passage que la problématique des pères de l'Église trouve une certaine application depuis 1950 avec les pays du tiers-monde.
Per inciso, bisogna dire che questa idea dei padri è stata applicata intorno agli anni 50 verso i paesi del terzo mondo.
Et on a notamment, avec le grand économiste maintenant décédé, François Perroux, une sorte de une réflexion chrétienne sur ce que François Perroux appelait l'économie du don.
E c'è stata, soprattutto da parte del ormai deceduto professore economista professor Perroux, una riflessione proprio sull'economia in termini di dono.
C'est ça, l'économie du don, qui retrouve tout à fait les grandes intuitions des pères de l'Église.
Che si rifà quasi pienamente ai padri della Chiesa.
Je vais illustrer de manière quantitative ce phénomène du don. Quand les Américains, le plan Marshall a été lancé, 2,7% du produit national brut américain a été donné pour le plan Marshall.
Allora illustrerò quantitativamente questa idea dell'economia del dono. Quando è stato lanciato il piano Marshall, il 2,7% del prodotto lordo americano è stato impiegato per esso.
Aujourd'hui, je signale, les États-Unis donnent 10 fois moins dans l'aide au tiers monde.
E segnalo questo fatto, ai giorni nostri gli Stati Uniti danno 10 volte meno di quanto veniva dato col piano Marshall per i paesi del terzo mondo.
Bon. On peut aussi prendre l'exemple de l'endettement de certains pays comme d'Amérique latine comme une occasion possible d'une économie du don.
Anche l'indebitamento di molti paesi, per esempio dell'America Latina, potrebbe essere un esempio dell'applicazione possibile di questa economia del dono.
Un autre trait de la tradition patristique, c'est un manque d'intérêt pour la dimension politique. Une absence d'intérêt pour la dimension politique à l'exception de Saint-Augustin.
Un altro tratto caratteristico dell'atteggiamento patristico è la mancanza di interesse verso la questione politica, salvo che parzialmente in Sant'Agostino.
Alors Saint-Augustin, lui, il va faire cette division qui est connue entre Babylone et Jérusalem, et puis une troisième cité à laquelle il ne donne pas de nom, c'est la cité humaine, qui se situe entre ces deux cités, entre ces deux extrêmes.
Come noto, Sant'Agostino divide, fa le sue divisioni tra Babilonia e Gerusalemme, tra le due colloca una terza città, la città umana, che però non definisce in modo molto preciso.
Et qu'est-ce que demande Saint-Augustin à cette, au fond, pour cette cité humaine? Il demande simplement la paix, une certaine paix.
E in fondo, per questa città umana, non chiede molto, si limita a augurarsi la pace per essa.
Sans se faire beaucoup d'illusions sur ce que pourrait donner en plus les, au fond, des initiatives humaines.
Senza illudersi molto su quanto di più potrebbero dare alla città umana le iniziative umane.
Le deuxième pilier, c'est la scolastique.
Il secondo pilastro è la scolastica.
Alors, la scolastique va se caractériser par une approche qui est non plus simplement pastorale, mais qui est scientifique, grâce à l'apport de la philosophie grecque notamment, et d'Aristote en particulier.
La scolastica si caratterizza per un approccio che non è più semplicemente
pastorale,
ma anche scientifico, grazie soprattutto all'apporto della filosofia greca in particolare, della filosofia di Aristotele.
E allora, par ailleurs, il y a maintenant, au moins en Europe occidentale, 1000 ans de tradition chrétienne. Et les ambitions des théologiens sont plus grandes que dans le cas de Saint-Augustin et des pères de l'Église.
Del resto, bisogna considerare che quando c'è al momento in cui operano gli studiosi della scolastica, l'Europa ha ormai alle spalle 1000 anni di cristianesimo e quindi i desideri e gli ideali di costoro sono più ampi di quelli dell'epoca di Sant'Agostino.
E dans le traité de la justice des sommes théologiques, celle de Saint Thomas ou celle des autres théologiens, on va demander au prince, à l'État, de veiller à ce qu'il y ait un certain nombre de ressources nécessaires pour pratiquer la vertu.
E nei trattati sulla virtù delle varie somme, anche in quello di San Tommaso, c'è sempre questa richiesta ai principi, allo Stato, perché ci siano le risorse necessarie per praticare la virtù.
Donc vous voyez, on passe de la phase patristique, purement pastorale, à la phase et peu intéressée par la politique, à la phase scolastique, plus scientifique et plus exigeante sur le plan de l'intervention politique et sociale, au nom du christianisme.
Si passa dunque dalla posizione eminentemente pastorale e disinteressata dal punto di vista politico della patristica, alla posizione scientifica e molto più esigente nei confronti della realtà politica della scolastica.
E puis là je peux pas rentrer dans les détails de la période intermédiaire et notamment de cet étonnant déclin de la pensée sociale et politique de l'Église au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle.
Purtroppo non posso entrare nei particolari per quanto riguarda il periodo intermedio e purtroppo non posso parlare di quel stupefacente declino che caratterizza la politica sociale della Chiesa nei secoli successivi.
Della pensée sociale.
Il pensiero sociale della Chiesa nei secoli successivi, soprattutto a partire dal XVII.
Le fait est c'est que on arrive avec l'industrialisation au XIXe siècle sans qu'il y ait une pensée sociale de l'Église qui soit en mesure de relever le défi.
In effetti, si arriva alla rivoluzione industriale senza che ci sia un vero approfondimento del pensiero sociale della Chiesa che sia in grado di cogliere la sfida.
Et il faut attendre Léon XIII à la fin du XIXe siècle pour voir le défi qui soit relevé.
E bisogna aspettare perché questa sfida sia accolta Leone XIII alla fine del XIX secolo.
Mais avant de caractériser cette troisième phase, je vais faire une remarque. Souvent, on indique que l'Église n'a pas pu réagir à la question sociale au XIXe siècle, alors que le marxisme, dès 1848, a dénoncé les maux sociaux. Je vais m'expliquer sur ce point-là aussi.
Allora, prima di passare a caratterizzare in modo preciso la terza fase, vorrei fare una piccola osservazione. Si dice comunemente che la Chiesa non è stata in grado di analizzare, di cogliere i movimenti sociali, mentre il marxismo del secolo XIX, mentre ciò è stato fatto in modo accurato dal marxismo a partire dal 1848.
Allora, je me bornerai de mettre en regard deux dates. La première fois que le marxisme est accepté comme théorie d'un mouvement de masse, c'est avec le programme d'Erfurt en septembre 1891.
Allora, mi limiterò a mettere a confronto due date. La prima volta che il marxismo viene accettato come programma che serve a mettere in movimento le masse è con il Consiglio di Erfurt, il proclama di Erfurt del settembre del 1899.
Et vous savez comme moi que Rerum Novarum date de mai 1891, c'est-à-dire six mois avant.
Et voi sapete meglio di me che la Rerum Novarum è del maggio del 1891.
Ce que je voulais dire par là, c'est que la difficulté, il y a eu des penseurs chrétiens dès le début du 19e siècle qui ont dénoncé la question sociale. Mais la difficulté pour l'Église, c'est précisément que son message devait s'adresser à une institution organisée, ce qui est beaucoup plus difficile qu'un message purement personnel.
Del resto, poi, la preoccupazione sociale aveva era stata tenuta ben presente dai pensatori cristiani già dall'inizio del XIX secolo, che avevano denunciato questi problemi. Ma in effetti la difficoltà che caratterizzava questi pensatori era il dover tener conto del fatto che il pensiero sociale della Chiesa doveva rivolgersi a un'istituzione con delle caratteristiche ben fissate e non a un movimento fluido.
Oui. Donc, ce qu'on peut dire, et j'en termine avec ça, c'est que le marxisme devient un mouvement de masse à peu près au même moment où l'Église se dote d'une doctrine sociale organique.
Et pour conclure,
dans le cadre de l'industrialisation.
Possiamo dire che in effetti nella cornice della rivoluzione industriale, dell'industrializzazione, il marxismo diviene effettivamente un movimento di massa contemporaneamente al fatto che la Chiesa si dota di un insegnamento sociale.
Bon. Alors maintenant je vais essayer de caractériser l'apport de l'enseignement des papes depuis 100 ans.
E adesso cercherò di caratterizzare l'insegnamento dei papi degli ultimi 100 anni.
Alors la grande idée de Léon XIII c'est de relever le défi de la révolution industrielle et de christianiser la société industrielle.
La grande idea di Leone XIII è quella di raccogliere la sfida dell'industrializzazione.
Léon XIII était très admiratif.
Et di cristianizzare la società.
Oui. Léon XIII avait été l'évêque de Pérouse et où, pendant qu'il était évêque, dans la cathédrale de Pérouse, il y avait le tombeau d'Innocent III, le grand pape médiéval.
Bisogna tener conto che Leone XIII era stato vescovo di Perugia, città nella cui cattedrale c'era la tomba di Innocenzo III, il grande papa medievale.
E quando Leone XIII va divenire papa, il va essayer de reprendre le projet d'Innocent III sur le mode de l'analogie et non pas de la ressemblance.
E quando Leone XIII diventerà papa, cercherà di continuare il progetto di Innocenzo III, continuarlo secondo la categoria dell'analogia e non della uguaglianza.
Alors, pour vous illustrer la différence, puisque vous verrez que c'est important, un réveil et un baromètre, ça se ressemble, point commun fondamental.
Tanto per farvi capire questa differenza, una sveglia e un barometro sono molto simili, ma non hanno niente a che fare.
Tandis qu'une montre à quartz et un cadran solaire mésopotamien ne se ressemblent pas, mais ont une analogie typique.
Mentre qua un orologio solare dell'epoca mesopotamica non si assomigliano per nulla, però hanno la stessa funzione.
Alors, c'est très important de ne pas confondre l'analogie et la ressemblance. Et je dirais que le mouvement intégriste, c'est de vouloir faire une ressemblance, d'ignorer le caractère irréversible de l'histoire.
Allora, questo
un traditionaliste strict.
Questo per illustrarvi la differenza tra analogia e somiglianza. E c'è integrismo là dove si vuole portare avanti l'idea di somiglianza, non tenendo conto del carattere irreversibile della storia.
Tandis que Léon XIII proposait de faire une analogique d'une société chrétienne dans le cadre industriel.
Leone XIII proponeva quindi di cristianizzare la società, di creare una società cristiana nel quadro concreto della società industriale.
C'est-à-dire vraiment d'inventer un autre type de société chrétienne dans un autre contexte fondamental commun.
Quindi creare un nuovo tipo di società cristiana nella società, ma creando dei nuovi valori, mantenendo invariati i valori fondamentali.
Alors, sans ici vouloir être polémique, disons que l'erreur typique d'une attitude qu'on pourrait appeler réactionnaire, c'est une attitude qui veut faire de la ressemblance avant tout.
Quindi l'errore caratterizzante, un'attitudine reazionaria, è l'errore di chi vuole fare una somiglianza nonostante tutto.
Parce que on considère que les valeurs fondamentales sont indissociables des structures historiques qui les ont fait naître une première fois.
Perché si ritiene che i valori fondamentali non possano essere scissi dalle strutture storiche in cui si sono stati evidenziati.
Et l'autre extrême qu'on pourrait appeler progressiste consiste à oublier que ce ne sont pas les formes structurelles qui sont essentielles, mais les valeurs qui doivent être défendues dans un autre contexte. Garder les mêmes valeurs, mais avec des formes et des structures différentes.
Et l'altro estremo, l'estremo progressista, è quello che dice che vanno salvaguardati semplicemente i valori cancellando completamente le strutture in cui questi si sono generati.
Or, l'intuition de Léon XIII, qui va être fondamentale pour le développement de toute ce troisième pilier de l'enseignement social chrétien, ça va être une intuition analogique. Il s'agit de christianiser la société industrielle comme hier, mais sur le mode analogique, on a christianisé le monde rural occidental.
La grande intuizione di Leone XIII, che si sviluppa secondo appunto le categorie dell'analogia, è questa. Occorre cristianizzare la società, creare una società cristiana nella società industriale, come ieri era stata creata una società cristiana nella società rurale.
Et en ce sens-là, c'est même le titre de la conférence, il y a chez Léon XIII, il faut beaucoup y insister, un idéal historique chrétien qui est proposé.
E bisogna insistere che in Leone XIII è concretamente proposto un ideale storico cristiano.
Et il ne s'agit pas d'un nouveau Moyen Âge, comme dirait Berdiaev, mais d'une société chrétienne moderne.
E non si tratta di un nuovo Medioevo, come potrebbe dire Berdiaev, ma è di un nuovo modello di cristianesimo. Bon.
Alors maintenant que je vous ai proposé ces trois piliers qui structurent la genèse de l'enseignement social chrétien, je vais mettre en valeur deux pôles qui apparaissent à chaque étape.
Ora che vi ho mostrato questi tre pilastri dell'insegnamento cristiano della Chiesa, cercherò di sottolineare il valore di due poli che caratterizzano ogni tappa.
Alors, le premier pôle, j'appellerai, c'est un premier pôle rationnel. Qui est illustré par exemple par un souci est axé sur la loi naturelle et les droits de l'homme.
Il primo polo è quello razionale che è caratterizzato da una preoccupazione, da un'insistenza sulla ragione e sulla legge naturale.
Donc il permet un échange, une conversation avec les non-croyants et il permet donc un dialogue avec, j'allais dire, l'ensemble des hommes.
Ed è il polo per cui si può avere uno scambio con i non credenti, insomma con l'insieme degli uomini.
Le deuxième pôle, j'appellerai le pôle prophétique, qui est lié à la révélation.
Il secondo è il polo profetico legato alla rivelazione.
Et qui est spécialement branché, si on peut dire, ou axé sur la vertu théologale d'espérance.
Imperniato sulla virtù teologale della speranza.
Ce pôle prophétique donc permet en quelque sorte de s'appuyer sur l'écriture pour annoncer un témoignage d'espérance.
E questo polo permette di appoggiarsi sulla scrittura per annunciare una testimonianza di speranza.
Qui, sur le mode purement séculier, purement humain, aurait une caractéristique utopique et illusoire.
Che dal punto di vista puramente secolare avrebbe una connotazione puramente illusoria.
Alors, je vais revenir, parce que ça me semble très important, sur ce pôle prophétique. Mais je voudrais dire dès maintenant ce que je vous avais annoncé il y a une minute, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a eu ce déclin de l'enseignement social chrétien ?
Allora ritornerò sul polo profetico, data la sua importanza, ma adesso cercherò di spiegarvi ciò cui vi ho accennato prima, e cioè perché c'è stato un declino dal punto di vista dell'insegnamento sociale cristiano.
Eh bien, je crois que il y a eu, quand les deux pôles ne sont pas parallèlement développés, eh bien, il y a un déséquilibre qui s'opère et qui finit par être ruineux pour l'enseignement, pour la doctrine sociale dans son ensemble.
Et il problema è che quando questi due poli non sono sviluppati parallelamente, si crea inevitabilmente uno squilibrio che va a detrimento dell'insegnamento sociale nel suo insieme.
Or, en Europe occidentale, dans les années qui ont suivi le concile, en dépit de nombreuses et de très importantes encycliques comme Mater et Magistra, Pacem in Terris, Populorum Progressio, il y a eu une réduction de l'enseignement social chrétien, un phénomène de réductionnisme, où on ne retenait que l'aspect, où on privilégiait de manière exclusive l'aspect rationnel.
Alors, ciò che ha caratterizzato l'Europa occidentale del periodo post-conciliare è che, a dispetto dell'abbondanza di encicliche, la Mater e Magistra, Populorum Progressio, c'è stata una riduzione all'aspetto puramente razionale del problema.
Alors, on finissait par n'avoir plus qu'un ensemble de recettes, de formules, subsidiarité, solidarité, qui sont des notions très importantes, mais qui finissaient par n'être plus qu'une analyse purement rationnelle, du moins dans les commentateurs, de l'enseignement social chrétien.
Per cui c'è stato tutto un fiorire di semplici ricette, di semplici formule, pur molto importanti come quella della solidarietà, ma che in effetti non si riducevano che a semplici analisi.
Alors, je reviens maintenant à cet aspect prophétique qui a été un peu oublié pendant ces années. Alors, qu'est-ce que nous dit cet aspect prophétique? Il nous dit qu'une société plus humaine, plus chrétienne est possible.
Allora, ritorniamo all'aspetto profetico. Che cosa ci dice? Ci dice che una società più umana è possibile.
Ça ne veut pas dire qu'elle est certaine, elle est possible conditionnellement. Il ne s'agit pas d'une lecture d'horoscope, mais d'une possibilité conditionnelle.
Allora, non è certa, non si tratta della lettura di un oroscopo, ma è possibile, condizionata.
Alors, pendant les années qu'ont suivi le concile, notamment en Europe occidentale, la prospérité étonnante au point de vue matériel, au fond, a fait que beaucoup de gens ne s'étaient installés, s'étaient en quelque sorte embourgeoisés.
Negli anni che hanno seguito il concilio, almeno in Europa occidentale, una stupefacente prosperità ha fatto sì che moltissima gente si è messa in una situazione di stasi, si è imborghesita.
Bon. Et on a vu la dimension prophétique apparaître de manière inattendue en Amérique latine, d'une part, et en Pologne, d'autre part, sous des modes assez différents.
Et si è visto questa dimensione profetica avere una stupefacente immagine, secondo modalità differenti, nell'America Latina e in Polonia.
Je vais vous citer un petit exemple que j'ai vécu. Il y a deux ans, je suis allé au Mexique et j'ai fait une conférence. C'était dans un séminaire où il y avait près de 400 séminaristes.
Vi farò un piccolo esempio. Due anni fa circa sono stato per una conferenza in Messico in un seminario in cui c'erano circa 400 séminaristes.
Et puis j'ai été me promener dans la bibliothèque et j'ai regardé sur les étages où il y avait les livres sur l'enseignement social chrétien, et je me suis aperçu qu'entre 1965 et 1980, il n'y avait plus rien pratiquement.
65, oui.
Entre 1965 et 1980, il n'y avait plus d'ouvrages sur l'enseignement social chrétien.
Aggirandomi per la biblioteca e guardando gli scaffali pertinenti all'insegnamento sociale della Chiesa, mi sono accorto che non c'era assolutamente, praticamente niente negli anni tra il 1965 e il 1980.
Antérieurement, une bonne partie des livres sur l'enseignement social chrétien étaient des traductions d'ouvrages allemands, italiens, français ou d'ouvrages espagnols. C'est-à-dire venant d'Europe occidentale.
Per il periodo precedente c'erano moltissimi libri che erano traduzioni di opere provenienti dall'Europa, francesi, italiane, tedesche.
Or précisément le déclin de la réflexion sur l'enseignement social chrétien en Europe a eu un effet direct en Amérique latine.
E di fatto questo declino della riflessione in Europa occidentale ha avuto un riflesso diretto sull'America Latina.
Alors il y a eu la théologie de la libération est née à peu près à ce moment-là.
Perché la teologia della liberazione è nata più o meno in questo periodo.
J'aurai l'occasion de revenir. D'ailleurs, il faudra employer le pluriel puisqu'il y a beaucoup de théologie de la libération. Mais il est clair que ce qu'il y a de plus intéressant dans le cas de la théologie de la libération, c'est qu'elle ait revalorisé l'aspect prophétique.
Ritornerò su questo argomento perché è molto ampio e prima di tutto bisogna parlare di teologie della liberazione al plurale perché sono più una. Ma quello che importa qui è sottolineare come essa abbia rivalutato l'aspetto profetico.
Bon, ce qu'on peut critiquer dans certaines expressions de la théologie de la libération, c'est que l'aspect prophétique ait été emprunté à la tradition, à la pensée marxienne, qui est un prophétisme purement temporel.
Ciò che si può rimproverare, ciò che può essere criticato in questa operazione, è che l'aspetto profetico sia stato improntato al marxismo, che è un profetismo temporale.
Et au même moment, en Pologne, on avait aussi une insistance sur la dimension prophétique, mais là qui avait une autre caractéristique.
E negli stessi anni in Polonia c'era pure un'insistenza sulla dimensione profetica, ma con tutt'altra caratteristica.
Où le marxiste évidemment n'avait pas la même position.
Il marxismo certo non aveva la stessa posizione.
Donc pour revenir sur ces deux pôles, il faut que les deux pôles soit également développé pour que l'enseignement, pour que la doctrine sociale chrétienne soit équilibrée.
Per ritornare ai due poli, occorre che siano sviluppati parallelamente perché la dottrina sociale cristiana si possa sviluppare pienamente.
Si vous n'avez qu'une insistance sur l'aspect rationnel, sur la loi naturelle, sur les droits de l'homme, vous allez avoir un rationalisme et finalement l'enseignement social chrétien perdra tout son dynamisme mobilisateur.
Se non c'è che un'insistenza sull'aspetto razionale, sulla legge naturale, sui diritti dell'uomo, non si avrà che un razionalismo. Oui.
Si vous insistez uniquement sur l'aspect prophétique, vous aurez des gnoses.
Se invece si insiste solo sull'aspetto profetico, si hanno delle gnosi.
Donc il faut, c'est cet équilibre là qui est indispensable. Je vais maintenant arrêter cette première vue panoramique que je vous rappelle en deux mots. Donc une genèse avec trois piliers. Et puis deux pôles, un pôle plutôt rationnel, un pôle un pôle prophétique.
Richiamo brevemente quanto già esposto, i tre pilastri e i due poli.
Bon, alors je vais maintenant aborder la nouvelle encyclique Rei Sollicitudo Rei Socialis, mais avant je crois tout de même bien faire en disant un mot tout de même sur la loi naturelle, parce que c'est un point qui me paraît particulièrement délicat et qui mérite une certaine explicitation.
Allora cercherò di abbordare adesso la nuova enciclica, la Sollicitudo Rei Socialis, soffermandomi però prima di tutto a dire una parola sulla legge naturale, che è un argomento che mi sembra meritare alcune chiarificazioni.
La loi naturelle, c'était une expression qui est entrée une certaine déconsidération après, disons, vers les années 1950, et on a préféré parler des droits de l'homme. En fait, les droits de l'homme, c'est la concrétisation de la loi naturelle.
Intanto la terminologia, a partire intorno agli anni 50, è stata preferita alla terminologia legge naturale, si è preferito parlare di diritti dell'uomo, ma in effetti i diritti dell'uomo non sono che la concretizzazione della legge naturale.
Parce que la question qui se pose, la loi naturelle, comment est-ce qu'on la connaît, la loi naturelle? Voilà une grave question. Comment connaît-on la loi naturelle?
Si pone infatti una grave questione: come si conosce la legge naturale?
Alors, de toute manière, ce n'est pas une connaissance de type purement discursif, de type purement discursif.
Non è comunque una conoscenza di tipo puramente discorsivo.
Saint Thomas disait que c'était une connaissance qu'on avait des principes de la loi naturelle, une connaissance par inclination, per inclinationem, par inclination.
Saint Tommaso diceva che la si può conoscere per inclinazione.
C'est une notion très importante et très intéressante d'ailleurs, qui empêche un ethnocentrisme catastrophique, ethnocentriste, c'est-à-dire de ramener la loi naturelle aux coutumes locales qu'on voit.
È una nozione molto importante e molto interessante perché tra l'altro impedisce un etnocentrismo, cioè ridurre questa legge naturale al costume delle popolazioni.
Bon, et alors c'est une connaissance qui est à la fois une connaissance par inclination, c'est-à-dire que on comprend qu'il y a certaines choses qu'il faut faire et des choses qu'il faut éviter. Alors ça, c'est ce premier accès à la connaissance de la loi naturelle. Et le deuxième accès, c'est l'observation historique et anthropologique des sociétés.
Allora, è un doppio approccio che si deve avere per avere questa, per conoscere, per penetrare in questa nozione. Per inclinazione, cioè la coscienza che ci sono delle cose che si possono fare e ci sono delle cose che non si possono fare. Un secondo accesso è lo studio etnografico, lo studio delle tradizioni delle popolazioni.
Alors, quand en 1948 les Nations Unies ont voté la Déclaration universelle des droits de l'homme, personne n'était d'accord sur les principes philosophiques.
Quando nel 1948 le Nazioni Unite hanno votato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nessuno era d'accordo sui principi fondamentali.
Mais on était au lendemain de l'aventure nazie et on était tellement effrayé par les excès qui avaient eu lieu pendant avec Hitler notamment, qu'il y a eu une sorte de réaction psychologique qui fait que, sans être d'accord sur les principes, on s'est accordé sur des conséquences pratiques.
Ma bisogna capire che si era appena usciti dalla barbarie del nazismo, si era talmente spaventati dalle conseguenze dell'ideologia nazista che, pur non essendo d'accordo sulla teoria, ci si è giunti ad accordare sugli effetti pratici.
Et quand on a voté pour la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a eu 6 abstentions, c'est-à-dire l'Union soviétique, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Arabie saoudite et l'Amérique du Sud, et l'Afrique du Sud.
Quando si è giunti alla votazione ci sono state 6 astensioni, l'Unione Sovietica, la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Africa
du
Sud, Sudafrica
l'Arabia Saudita.
E l'Arabia Saudita.
Pour des raisons variées. de la charia ou la loi coranique qui était en contradiction, semblait-il, avec certaines dispositions de la Déclaration des droits de l'homme. Et puis les pays communistes parce que personne n'a voté contre, mais ils se sont abstenus parce que pour eux, c'était, il y avait des racines bourgeoises.
Allora, queste astensioni hanno avuto diverse ragioni. Per il Sudafrica era l'apartheid, per l'Arabia Saudita era una questione di incongruenza con la legge coranica e per i paesi comunisti in effetti non era motivata particolarmente tale astensione se non per il fatto che si vedeva in questa dichiarazione delle radici borghesi.
Moi, je me suis livré à, j'ai lu les comptes rendus de la commission des droits de l'homme qui sont tenus avant la déclaration de 48, et c'est très intéressant de voir les débats qui sont engagés entre le délégué soviétique, le délégué de la Chine, c'était à ce moment-là la Chine de Chiang Kai-shek, et puis des représentants des autres pays.
Allora, io ho potuto leggere i contraddittori che hanno preceduto questa dichiarazione ed è molto interessante, leggendo i dibattiti che l'hanno preceduta, leggere proprio lo scontro tra i delegati dell'URSS, i delegati della Cina, che a questo momento, che in questi anni era la Cina di Chiang Kai-shek, e i delegati
des autres pays,
degli altri paesi.
Par exemple, le délégué Chiang Kai-shek, M. Wang, disait: pour nous, la notion de nature, ça ne traduit rien du tout. Rien du tout. C'est un concept qui nous dit rien dans notre tradition chinoise.
Per esempio, il delegato di Chiang Kai-shek diceva che la nozione di natura non diceva assolutamente niente alla tradizione culturale cinese.
Et le délégué soviétique disait: ça, c'est une notion bourgeoise.
Il delegato sovietico diceva: è una nozione borghese.
Alors, sans être du tout d'accord sur le fond, sur le fondement philosophique, on s'est mis d'accord sur des réalisations pratiques.
Quindi, senza essersi messi d'accordo su alcun fondamento, ci si è messi d'accordo su delle realizzazioni pratiche.
Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible, ou beaucoup plus difficile.
Oggi ciò non è più possibile, o quantomeno è molto più difficile.
Pensez au débat sur la bioéthique.
Pensate al dibattito sulla bioetica.
Moi je donne l'exemple, par exemple, du comité d'éthique qui s'est tenu, qui a été formé dans différents pays. Moi, je connais un petit peu ce qui s'est passé pour la France, où le comité d'éthique a essayé de réfléchir sur des règles acceptées de manière commune sur les manipulations génétiques.
Pensate, per esempio, io ho potuto seguire un po' il dibattito in Francia, pensate ai vari comitati d'etica che si sono formati un po' in tutti i paesi e si è potuto riflettere su alcune manipolazioni, su cosa si può fare, ci si è accordati su alcune manipolazioni possibili.
Et bien alors, on s'aperçoit que si en 1948, on a pu se mettre d'accord en gros sur des questions pratiques sans avoir aucune référence philosophique commune, ça devient de plus en plus difficile, sinon impossible aujourd'hui.
Allora ci si accorge che se nel 1948 si è arrivati a mettersi d'accordo su delle questioni pratiche senza che ciò avesse alle spalle una riflessione comune, ci si accorge che però ai giorni nostri questo è praticamente impossibile.
Oui. Donc tout ceci, je l'ai dit, pour indiquer que le problème de la loi naturelle, des lois de l'homme et de la réflexion proprement rationnelle rencontre aujourd'hui des difficultés toutes nouvelles qui nous obligent à une réflexion philosophique beaucoup plus poussée qu'hier.
Ho detto tutto ciò per indicare come tutte queste nozioni di legge naturale dei diritti dell'uomo hanno bisogno oggi di una riflessione filosofica molto più approfondita di ieri.
Donc, voilà, on se trouve devant une tâche qui est devant nous, où il suffit plus de parler de loi naturelle, de droit de l'homme, mais il faut réfléchir sur leur fondement rationnel même.
Il compito che ci sta davanti è molto grande, non si tratta più di parlare semplicemente di legge naturale, di diritti dell'uomo, ma occorre riflettere in modo approfondito sul fondamento razionale.
Alors, maintenant, En ce qui concerne le pôle prophétique lui-même, encore une fois, j'y reviendrai, mais je voudrais tout de suite donner une indication à cet égard, avant de parler de la dernière encyclique du pape.
Ritornerò sul polo profetico, ma vorrei dare un'indicazione a questo riguardo prima di partire con le indicazioni sull'ultima enciclica.
Comme je vous l'ai dit, Léon XIII avait toujours sous-tendu son enseignement social par un projet historique chrétien.
Come vi ho già detto, Leone XIII aveva sotteso un progetto cristiano concreto.
Mais Pie XI va essayer de concrétiser davantage, notamment avec Quadragesimo Anno, ou même avec des encycliques qui étaient parues, qui sont à peu près de la même époque, avait essayé de proposer une concrétisation plus poussée.
Ma Pio XI aveva cercato una concretizzazione più approfondita, più spinta di quanto era stato delineato da Leone XIII, eminentemente con la Quadragesimo Anno, ma anche con altre encicliche comparse grosso modo negli stessi anni.
Mais les catastrophes économiques, politiques, les totalitarismes de l'entre-deux-guerres vont complètement ruiner ces projets.
Ma le catastrofi economiche e politiche di questi anni faranno crollare quasi totalmente questi progetti.
Et avec Pie XII, on est très frappé de voir que Pie XII pratiquement se contente, va insister sur la loi naturelle, sur des principes assez généraux, mais ne va plus formuler de manière concrète un projet historique chrétien en raison des formidables bouleversements qui vont être contemporains de son pontificat.
E quello che stupisce è che Pio XII praticamente continuerà a insistere sulla legge naturale, su principi generali, ma senza delineare un progetto cristiano concreto che tenga conto degli sconvolgimenti che sono contemporanei al suo pontificato.
E né il Concile né Jean XXIII n'iront dans ce sens-là de manière très concrète non plus. Il faut attendre Paul VI.
E nel concilio né Giovanni XXIII andranno in maniera diversa, in direzione diversa dalla strada di Pio XII. Bisognerà aspettare Paolo VI.
Paolo VI, qui a partir des années 70 et notamment Noël 75, va fournir cette formulation assez nouvelle et très intéressante de civilisation de l'amour.
E bisognerà aspettare Paolo VI che a partire dagli anni 70 soprattutto e fondamentalmente dal Natale 75 arriverà ad alla famosa formulazione della civiltà dell'amore.
Vous savez que Paul VI était un grand ami de Maritain, auteur de l'humanisme intégral, qui avait proposé une distinction entre une chrétienté sacrale et une chrétienté profane.
Come sapete, Paolo VI era un grande amico di Maritain, l'autore del cristianesimo integrale e dell'umanesimo integrale ed era
de l'humanisme intégral et la distinction de la chrétienté sacrale et de la chrétienté profane.
E aveva introdotto la nozione di una distinzione tra cristianità sacrale e cristianità temporale.
Profane. Alors, Paul VI va reprendre cette intuition, mais à sa manière.
Paolo VI riprenderà questa intuizione, ma a modo suo.
En parlant d'une civilisation de l'amour à réaliser.
Parlando di una civiltà dell'amore che deve essere realizzata.
Alors, je vous prie de noter que dans les magnifiques textes du Concile, et dans la magnifique encyclique et Mater et Magistra, on ne trouve pas cette idée.
Vi prego di tener conto che nei pur magnifici testi del Concilio e nella magnifica Mater et Magistra non c'è questa idea.
Oui. Alors, Paul VI va rétablir une idée force de style prophétique, plus à tonalité plus prophétique. Et la question qu'on pouvait se poser, mais qu'est-ce que sera cette civilisation de l'amour?
Allora, Paolo VI ristabilirà cioè proprio questa accezione profetica, e la domanda che allora ci si può porre a questo punto è: ma che cos'è questa civiltà dell'amore?
Oui. Visiblement, Léon XIII et Pie XI parlaient en termes de civilisation, enfin je veux dire de pays à culture chrétienne, c'est-à-dire d'Europe ou d'Amérique du Nord ou du Sud.
Evidentemente Leone XIII e XI, quando parlavano di questo, si rivolgevano a paesi comunque cristianizzati, all'Europa o all'America del Sud.
Pie XII va élargir le cercle en pensant de manière planétaire, mais sans proposer un idéal historique plus concrétisé.
Pio XII allargherà i confini con un orizzonte che comprende tutto l'emisfero, ma senza proporre un ideale cristiano concretizzato.
Et ce sera la même chose et pour le Concile et pour Jean XXIII.
E la stessa cosa faranno il Concilio e Giovanni XXIII.
Alors, à mon avis, l'élément le plus neuf et le plus nouveau va être fourni par Jean-Paul II avec un événement tout à fait inattendu et très intéressant qui s'appelle la rencontre d'Assise.
Et secondo me, l'elemento più nuovo sarà dato da Giovanni Paolo II con l'incontro di Assisi.
Où on a de manière symbolique une esquisse de ce que pourrait être à la racine une civilisation de l'amour qui ne soit pas uniquement réservée aux cultures d'origine chrétienne, mais qui soit vraiment universelle.
Gesto con il quale ha dato un'immagine simbolica, con un'immagine simbolica, uno schizzo di quello che potrebbe essere una civiltà dell'amore non solo limitata ai paesi di cultura cristiana, ma di dimensione universale.
Et le prodige, c'est que Jean-Paul II a réussi à éviter tout syncrétisme en prenant cette initiative-là.
E la cosa prodigiosa è che Giovanni Paolo II sia riuscito a evitare ogni tipo di sincretismo in questa iniziativa.
Bon. Alors, ceci m'amène maintenant à la nouvelle encyclique. Sollicitudo Rei Socialis.
Siamo così giunti alla nuova enciclica.
Alors, à mon avis, c'est une encyclique extrêmement importante qui pourrait être comparée à Rerum Novarum.
È un'enciclica importantissima che può essere paragonata alla Rerum Novarum.
Alors là, je ne peux pas rentrer dans tous les détails de cette riche encyclique. Je voudrais simplement relever quelques points.
Non posso certo entrare in tutti i particolari di questa ricchissima enciclica, cercherò di porre in rilievo alcuni aspetti.
Comme vous le savez, je suis persuadé que c'est devenu pour vous un livre de chevet, que vous le connaissez bien. Dites-le.
La conoscete bene sicuramente, sono convinto che sia per voi il libro da capezzale, no, quello che tenete di no fianco al vostro letto.
No. Alors, il y a cette partie. Et dans l'introduction, il y a un certain nombre de phrases tout à fait intéressantes et surprenantes. Jean-Paul II commence par nous dire qu'il y a une accélération de l'histoire.
Già l'introduzione comprende alcune frasi molto interessanti. Per esempio, Giovanni Paolo II comincia col dirci che c'è un'accelerazione della storia.
Et il va parler de notre époque comme d'un avant de l'an 2000 pour mobiliser les esprits et donner un exemple très remarquable d'une approche prophétique.
Et parla della nostra epoca come di un'epoca che anticipa il nuovo millennio e che
Une approche très remarquable de l'approche prophétique.
Et est notevole anche il punto di vista, l'approccio profetico.
Il va nous dire, alors là, il va rejoindre d'une certaine manière avec Pie XI, dans Quas Primas, c'est l'encyclique sur le Christ roi. Quas Primas, qui est le nom d'une encyclique en 1925 de Pie XI sur le Christ roi.
E va paradossalmente a collegarsi molto da vicino con l'encyclica del 25 di Pio 11, Quas Primas, sul oui. Cristo.
Cristo Roi.
Cristo Re.
Et alors, il nous dit, il y a une civilisation de l'amour dont il nous a donné un premier avant-goût avec Assise, qui est possible.
Ci dice dunque che la civilizzazione, la civiltà dell'amore di cui ci ha dato un'anteprima Assisi è possibile.
Et le génie propre de Jean-Paul II, ce sera un génie de réalisation, et tous ces voyages sont des une pédagogie pour concrétiser et incarner ces idées forces.
Et il genio proprio di Giovanni Paolo II è la realizzazione, e tutti i suoi viaggi sono una pedagogia per la concretizzazione di questa civiltà.
Alors, au fond, vous voyez, si c'était dit sur un registre purement rationnel, on pourrait le classer immédiatement comme une utopie.
È evidente che se questo fosse detto solo su un registro puramente razionale sarebbe una pura utopia.
Sur un registre théologique, ça relève du mode prophétique.
E su un registro teologico rimanda invece all'aspetto profetico.
C'est la vertu théologique d'espérance.
Alla virtù teologica della speranza, teologale della speranza.
Et quand vous relisez, et vous savez que le pape qui cite le plus souvent l'écriture dans les encycliques, c'est Jean-Paul II. Jean-Paul II cite constamment l'écriture dans ses encycliques.
Et vous savez que Giovanni Paolo II est le pape qui, con maggior frequenza, cita nelle sue encycliques les scritture.
Ce qui donne, il suffit que vous pensiez à Isaïe ou au prophète, ce qui donne un ton, cette note prophétique est très accusée dans ces textes et dans ce texte en particulier.
Ciò che, se basta che pensiate a Isaia o ai profeti, dà un tono eminentemente profetico ai suoi testi e soprattutto a questo testo.
On pourrait même ajouter une sorte de liturgie cosmique, ce goût des anniversaires, hein, que chacun note dans le style de Jean-Paul II.
E si potrebbe quasi rilevare una specie di liturgia cosmica in questo, per esempio, in questo gusto degli anniversari che caratterizza questo Papa.
Après tout, toute la liturgie d'une année, l'année liturgique, c'est une suite d'anniversaires, finalement.
E in effetti la liturgia annuale è come una sequela di anniversari.
D'une certaine manière. Donc, vous voyez, là, il y a une intégration à la fois théologique, liturgique, qui caractérise le mode prophétique de Jean-Paul II.
Vedete che c'è dunque nelle parole profetiche di Giovanni Paolo II un'integrazione tra teologia e liturgia.
Et alors, là, on a des éléments assez neufs pour essayer de penser cette civilisation de l'amour.
Ci sono allora qui degli elementi abbastanza nuovi per cercare di delineare cosa sia questa civiltà dell'amore.
Bon. Alors, c'était un premier point que je voulais faire remarquer dans cette encyclique. Maintenant, il y a deux notions que je voudrais évoquer maintenant.
Era ciò che mi premeva innanzitutto farvi notare su questa enciclica. Ci sono adesso due nozioni che vorrei proporvi.
D'abord, une notion assez inhabituelle dans les textes pontificaux, celle de, et même dans les, surtout peut-être, dans les manuels d'économie politique, c'est celle de surdéveloppement. Surdéveloppement.
La prima è una nozione inusuale nei testi, nelle encicliche, è una nozione che è più pertinente nei testi economici ed è quella di sovrasviluppo.
Il fallait une certaine audace pour parler de surdéveloppement. Et c'est très, vous savez qu'on a reproché à Jean-Paul II d'avoir envoyé dos à dos libéraux et socialistes.
È occorso una certa audacia per parlare di sovrasviluppo e voi sapete che è stato rimproverato a Giovanni Paolo II di aver respinto a piedi pari sia il liberalismo che il marxismo.
J'ai socialiste. J'ai lu dans des journaux américains des éditoriaux où on indiquait que c'était une insulte faite à l'Amérique.
In alcuni giornali americani ho potuto leggere che venivano, che si considerava questa enciclica come un insulto.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est cette notion de surdéveloppement. Par cette notion de surdéveloppement, Jean-Paul II veut montrer qu'au fond, la véritable plaie, c'est naturellement la pauvreté, mais beaucoup plus profondément, c'est l'idolâtrie.
Mediante questa nozione, Giovanni Paolo II vuole mostrare come la vera piaga sia al fondo, certo la povertà è un fatto grave, ma la vera piaga è al fondo l'idolatria.
E je peux pas prolonger indéfiniment ce commentaire, mais je voudrais vous proposer une distinction qui est très intéressante du sociologue George Friedman.
Non voglio continuare eccessivamente questo mio discorso, però vorrei proporvi una distinzione portata dal sociologo Friedman.
Friedman disait qu'il faut distinguer le temps libéré et le temps libre.
Bisogna distinguere, diceva questo sociologo, tra il tempo liberato e il tempo libero.
Le temps libéré, c'est ce que la technique vous permet. On met 2 heures au lieu de mettre une semaine pour faire un voyage, etc.
Il tempo liberato è quello che ci è regalato dalla tecnica. Ora ci si mettono 2 ore per fare un viaggio che prima necessitava di 2 giorni.
Mais le temps libre, c'est tout autre chose.
Ma ben diverso è il tempo libero.
C'est la manière d'utiliser ce temps libéré.
È il modo di utilizzare il tempo liberato.
Il n'est pas du tout sûr qu'on soit capable de le faire.
E non è certo, non è scontato che si sia in grado di farlo.
On a même toutes les preuves qu'on ne sait pas comment s'y prendre.
E anzi, ci sono buone ragioni per ritenere che non si sa assolutamente come fare.
E l'incroyable futilité des médias en général montre que il y a un problème.
E l'incredibile futilità della maggioranza dei media mostra che il problema esiste.
Moi je vis depuis 20 ans dans un pays admirable à maintes égards, qui est la Suisse. Et où il n'y a ni problèmes sociaux, ni problèmes politiques, ni problèmes économiques.
Vivo da più di 20 anni in un paese per molti aspetti ammirevole, dove non ci sono né problemi sociali, né problemi economici, né problemi politici.
Mais quand je vois à l'université la situation, quand je vois la pratique religieuse, quand je vois le nombre de suicides, quand je vois la futilité des médias, je me dis que il y a encore des problèmes.
Ma era la Svizzera questo paese. Quando vedo la situazione per esempio nell'università, quando vedo la pratica religiosa, quando vedo il numero dei suicidi, mi rendo conto che i problemi ci sono.
Alors bon, on a aussi l'exemple très spectaculaire notamment du Japon qui maintenant est la deuxième puissance de la planète. Le Japon.
Si può osservare anche il Giappone, per esempio, oggigiorno la seconda potenza del pianeta.
Où on assiste à travers ce formidable développement technologique à une sorte de déracinement psychologique tout à fait spectaculaire.
Si assiste in esso, proprio in virtù di questo prodigioso sviluppo tecnologico, ad una sorta di sradicamento culturale totale.
Bon. Alors, tout ça pour dire que quand Jean-Paul II parle du surdéveloppement, il vise un point tout à fait essentiel, qui prend des formes variées, selon les pays planifiés ou libéraux, mais qui se ramène à ce phénomène mortel d'idolâtrie.
Quando cioè Giovanni Paolo II parla di sovrasviluppo, prende di mira un fenomeno fondamentale che assume aspetti diversi nei vari paesi in cui viene considerato, ma che sempre parte da questo aspetto mortale che è l'idolatria.
De style idéologique ou de style pratico-pratique.
Che sia idolatria di stile ideologico o idolatria pratica, sempre idolatria.
Je prendrai une dernière notion. Et puis ensuite, peut-être à l'occasion de peut-être poser quelques questions, c'est cette notion des structures de péché.
L'ultima nozione che vi proporrò è quella delle strutture del peccato.
Alors, jusqu'à présent, certaines personnes pensaient que tout se ramenait à un problème personnel et spirituel et moral.
Fino a recentemente molte persone hanno pensato che tutto deve essere ricondotto ad una concezione eminentemente personale, spirituale.
Et puis d'autres, au contraire, que tout devait se régler par les structures. Par le changement ou les modifications des structures.
Altre invece, al contrario, che tutto doveva essere modificato per mezzo delle strutture, che tutto doveva essere ricondotto alle strutture.
Alors le pape insiste bien sur le fait que tout péché a une origine personnelle, mais que il se transmet dans des structures.
Il Papa sottolinea una cosa fondamentale, che ogni peccato ha un'origine personale, ma che si concretizza e si persiste, diventa istituzionale attraverso le strutture.
D'ailleurs, théologiquement, on avait de bonnes raisons d'être prêt à écouter ce genre d'argument, puisque le péché originel, au fond, c'est un péché personnel qui ensuite, en quelque sorte, se transmet de manière structurelle ou organique.
Et del resto, anche dal punto di vista teologico, non si poteva non essere pronti ad un tale ordine di considerazioni se si pensa che il peccato originale è un peccato in origine personale, ma che si trasmette di generazione in generazione in modo strutturale.
Oui. Alors, appliquant de manière analogique cette vue théologique, Jean-Paul II explique ces structures de péché qui caractérisent le monde économique et politique actuel.
E quindi vedendo in maniera analogica da questo punto di vista teologico Giovanni Paolo II parla di struttura del peccato.
Alors écoutez, maintenant je vais conclure parce que j'ai bien trop parlé et peut-être après les questions j'évoquerai quelques aspects de ce séjour que je viens de faire à Moscou. Mais je vous propose donc, alors en deux mots, qu'est-ce que... Alors si vous voulez dire ça...
Allora mi interromperò per lasciare spazio alle domande, poi se volete potrei evocare brevemente qualche impressione del mio recente viaggio nell'Unione Sovietica.
Alors, en ce qui concerne l'enseignement social chrétien, il faut conclure en rappelant une remarque tout à fait décisive que fait d'ailleurs Jean-Paul II, l'enseignement social chrétien n'est pas une troisième voie.
Allora, per quanto concerne l'insegnamento sociale della Chiesa, occorre ricordare una nota di Giovanni Paolo II, il quale sottolinea che prima di tutto l'insegnamento sociale della Chiesa non è una terza via.
Si on en faisait une troisième voie, on en ferait une idéologie.
Farne una terza via significherebbe ridurla a un'ideologia.
Elle est une lumière qui éclaire des troisièmes voies.
È una luce che rischiara delle terze vie.
Alors, si on est d'accord pour dire que l'enseignement social de l'Église n'est pas un programme politique, est-ce que ça veut dire qu'il s'agit uniquement de principes qui planent comme ça au-dessus de la réalité?
Ma dire che il progetto l'insegnamento sociale della Chiesa non è una terza via significa forse dire che esso è un insieme di principi che planano nelle alte sfere.
En réalité, il s'agit d'un enseignement qui est destiné à former des habitus.
In realtà si tratta di un insegnamento destinato a formare degli habitus.
Pas des habitudes, des habitus.
Non delle abitudini, ma degli habitus.
C'est-à-dire de rendre ceux qui prennent la peine de se former, de leur donner des habitus pratiques dans le monde contingent de la politique et de l'économie.
Cioè dare degli habitus a coloro che devono vivere nel mondo contingente, nel mondo dell'economia.
Alors, et ce sera comme ça que je terminerai, on peut... Saint Thomas se demande, est-ce que c'est, quand on ignore une chose, est-ce que c'est une faute de faire quelque chose? Alors, il répond non.
Allora, Saint Thomas un giorno si domanda se quando non si sa qualcosa è per un errore.
Mais il dit, l'erreur, c'est de ne pas s'être informé avant.
Ma lui si dice no, perché l'errore consiste nel non essersi informati prima.
Alors, donc l'enjeu ici, c'est de se former, de créer des habitudes grâce à l'enseignement social chrétien pour permettre de relever les défis d'une société de plus en plus complexe et qui se situe dans un temps qui s'accélère, dans une histoire qui s'accélère.
La posta in gioco a questo punto è formare, grazie all'insegnamento sociale della Chiesa, degli habitus mentali che rendano in grado la gente di rilevare la sfida della società, di una società che è in accelerazione.
Voilà. Alors, je m'arrête là pour que éventuellement quelques questions puissent être posées.
Allora, è disponibile a delle domande. Ringraziandovi per l'attenzione.
Ci sono due microfoni ai lati della sala che su indicazione possono essere dati.
Alors, s'il y a quelques questions, j'y réponds. Et puis ensuite, je dis un mot de l'expérience à Moscou.
Se ci sono domande risponderà e poi dirà due parole sulla sua esperienza a Mosca.
Vorrei fare brevemente due domande. Innanzitutto i motivi della incompatibilità, se non ho capito male, della concezione islamica e coranica rispetto alla dichiarazione delle Nazioni Unite. E la seconda, vorrei un accenno che integrasse la conferenza del professore sul principio della sussidiarietà di Giovanni XXIII.
Alors, sur la première question, l'objection qu'on a fait en Arabie Saoudite, c'est sur la condition de la femme. Ça a porté essentiellement sur le statut de la femme selon le statut coranique qui se trouvait en contradiction avec la déclaration universelle de 48.
Per quanto riguarda la prima domanda, l'obiezione dell'Arabia Saudita verteva fondamentalmente sullo statuto della donna che nel Corano ha un statuto diverso da quello proposto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
Oui. En ce qui concerne le deuxième point, sur le principe de subsidiarité qui a été formulé par Pie XI, c'est un principe tout à fait important qui relève, j'allais dire, du pôle rationnel de l'enseignement social chrétien.
Per quanto riguarda il principio della sussidiarietà, che è stato formulato da Pio XI, è un principio molto importante che partecipa del problema del polo profetico.
Alors, c'est un point très important, mais il faut pas ramener tout l'enseignement social de l'Église à un certain nombre de règles de ce type-là. Il faut aussi que l'autre aspect que j'ai appelé prophétique soit développé et que l'enseignement social chrétien ne soit pas une liste de formules et de recettes de ce type-là.
Allora, è un aspetto molto importante, ma proprio per la necessità di completezza di cui parlavo prima, non bisogna sottolineare solo l'aspetto razionale, ma occorre che ci sia la complementarietà dei due poli di cui ho parlato, perché l'insegnamento sociale della Chiesa non sia una semplice lista di ricette, di principi.
Vous allez traduire en italien?
Nous allons par l'année 1990.
Scusi.
Écoutez,
pardon.
Puisque il y a quelqu'un qui traduit, il faut peut-être mieux que vous parliez.
Oui, alors parle en italien, d'accord. Merci. Speravo di europeizzarmi con la lingua francese. Comunque, desideravo poter sapere, con la nuova industrializzazione economica europea dei 12 paesi allineati, la linea Glasnost perestroica, trasparenza e rinnovamento, che segue Michael Gorbachev, è allineata a questo nuovo trasformismo economico che ci vede inseriti nel 1992 in un Parlamento europeo alquanto confuso dal punto di vista della Torre di Babele, come si dice, nel linguaggio economico e nella torre di Babele nel linguaggio della moneta equ. Religione ed economia allineate al sistema della trasparenza e del rinnovamento di Gorbaciov, come meglio possono inserirsi nel contesto della nuova enciclica del nostro Papa, che tende a concretizzare ciò che i teorici filosofi, Marx compreso, hanno diciamo ormai utopicamente non realizzato. Grazie.
Alors, écoutez, on a rassemblé nos informations et alors, vous voulez, je ne suis pas sûr d'avoir compris, ni ma voisine. Alors.
E se può semplificare un attimino la domanda.
Alors, en résumé peut-être.
È un riassuntino.
Sì, economia marxista al confronto dell'economia liberalista è diciamo di tipo liberale massonico, di tipo liberale laico, di tipo cristiano al confronto nel 1992 nell'Europa unita, federale.
Ah oui, alors vous parlez du marché unique de 1992, hein? Bon. Alors quelle va être l'Europe de 92 entre l'économie disons socialiste et l'économie libérale? Alors, comme je vous l'ai dit, l'enseignement social chrétien n'est pas une troisième voie entre ces deux options possibles. Et elle fournit un certain nombre d'éclaircissements pour que les chrétiens prennent leurs responsabilités. Hein? Il est...
Come vi ho detto, l'insegnamento sociale della Chiesa non è una terza via, ma è un metodo per fornire delle luci, delle illuminazioni ai cristiani perché essi prendano le loro responsabilità.
Le matin, quand je vais all'università a Genève, il y a sur un mur un grand graffiti.
Quando al mattino vado in università, incontro sul muro un grosso graffito.
Qui me fait toujours beaucoup d'impression.
Che mi impressiona sempre.
Alors, il y a une tête ronde. Une tête ronde.
C'è una testa rotonda.
Et puis en dessous, on voit dessous. Avez-vous pensé aujourd'hui?
E sotto c'è scritto avete pensato oggi?
Bon, alors je crois qu'il faut penser.
Credo che bisogna pensare.
Et que l'enseignement social chrétien ne nous dispense pas de penser.
E che l'insegnamento sociale cristiano non ci dispensa dal pensare.
Elle nous invite même à penser. Et à inventer quelque chose, notamment pour cette échéance qui nous attend, qui s'inspire des valeurs essentielles, respect de la personne.
Et ci invita à penser, à réfléchir, anche soprattutto su questa scadenza che ci incombe, per riflettere su valori umani.
Et qui nous permet de penser, je reviens à une remarque de tout à l'heure, de manière analogique et non pas de ressemblance. C'est-à-dire de trouver quelque chose de nouveau en gardant l'essentiel et non pas de répéter d'anciennes formules.
Et ci invita à riflettere e a elaborare secondo la modalità dell'analogia e non della somiglianza, cioè a trovare qualcosa di nuovo salvaguardando i valori fondamentali.
Mais pour penser, faut être formé, et précisément, c'est la connaissance de l'enseignement social chrétien qui nous prépare à penser de manière qui soit en harmonie avec ce que nous dit l'Église.
Ma per pensare bisogna conoscere, ed è la conoscenza dell'insegnamento sociale cristiano che ci può permettere di riflettere, di elaborare in armonia con la Chiesa.
Mais vous voyez, alors j'ajoute une dernière chose, c'est ça qui serait très ennuyeux, c'est que l'enseignement social de l'Église ne soit qu'une liste de recettes qu'on applique comme ça au milieu de deux voies extrêmes.
Sarebbe molto noioso se l'insegnamento cristiano sociale non fosse che sociale cristiano, scusate, non fosse che una lista di ricette da applicare pedissequamente.
Volevo sollecitare un approfondimento del rischio gnostico, cioè perché solo il piano profetico, solamente il piano profetico crea questo rischio dello gnosticismo, perché è una questione che noi stiamo dibattendo da un po'.
C'est une question de vocabulaire. Moi, j'appelle une gnose, dans un sens assez spécifique, c'est un savoir qui se prétendrait total et le plus souvent sans, c'est comme ça que j'emploie, sans dimension transcendante.
Io è anche una questione di termini, io chiamo gnosi in senso specifico un sapere che si pretende totale senza una dimensione trascendente.
Voilà. Et ça, ceci m'amène à dire un mot maintenant de la Russie, mais à moins qu'il y ait une autre question.
A meno che ci sia un'altra domanda, questo aspetto mi porta a parlare della Russia.
A meno che non c'è questione.
C'è un'altra domanda. Aspetti che...
Grazie. Prima ha detto che avrebbe fatto un cenno alla teoria sociale cristiana protestante ortodossa. Se potrebbe farlo molto rapidamente da stamattina, grazie.
Alors, oui, après tout, j'enseigne à l'université qui a été fondée par Calvin, donc je lui dois quand même quelque chose.
In fondo insegno all'università fondata da Calvino e quindi gli devo in fondo qualcosa.
Bon. Alors, si vous voulez, dans le cas de la tradition luthérienne et surtout calviniste, il y a une sorte de pessimisme sur la nature humaine et si vous voulez un refus de penser qu'une réflexion rationnelle sur la loi naturelle puisse être légitime.
C'è nella tradizione calvinista e soprattutto luterana un pessimismo per quanto riguarda la condizione umana ed una sorta di rifiuto per
de la possibilité de pour la raison d'avoir une connaissance objectif de la loi naturelle.
E una sorta di rifiuto al fatto che la ragione possa avere una conoscenza oggettiva della legge naturale.
Et une des expressions les plus énergiques de ce point de vue, c'est Karl Barth. Et il va. Alors, si on refuse d'une certaine manière le plan naturel, le sola scriptura sera l'écriture seule, uniquement une dimension prophétique.
E l'aspetto più evidente, uno degli aspetti più evidenti è per esempio la posizione di Barth, il rifiuto di questo aspetto della legge naturale porta a appoggiarsi soprattutto sull'aspetto, sul polo profetico, quello appunto che viene definito solo la scrittura.
Oui, alors c'est un aspect prophétique assez spécial, parce que Karl Barth va considérer que toute institutionnalisation chrétienne est une imposture. Que ce soit les partis, les syndicats, les institutions. Et que c'est une imposture et c'est une sorte de perversion.
Ed è un aspetto profetico molto particolare perché Karl Barth arriva a dire che ogni sorta di istituzione cristiana è una sorta di impostura. E quindi qualsiasi sia sindacato o partito.
Alors il faut attendre le royaume de Dieu, c'est-à-dire la parousie, pour qu'on ait affaire à une véritable réalisation chrétienne.
E bisogna quindi aspettare la parousia perché si possa fare una realizzazione cristiana.
Alors vous voyez, c'est une sorte de refus très grave du génie du christianisme qui est un génie d'incarnation.
Ed è un rifiuto molto grave del genio del cristianesimo che è un genio dell'incarnazione.
La position orthodoxe est alors toute différente. Les orthodoxes n'ont pas développé une réflexion sociale dans le cadre moderne, sauf un certain nombre de penseurs comme Berdiaev, Bulgakov, qui étaient d'anciens marxistes qui se sont convertis à l'orthodoxie.
La posizione ortodossa è del tutto diversa, bisogna tener conto del fatto che gli ortodossi non hanno sviluppato recentemente una riflessione su questi problemi, salvo che, come con Berdiaev e Bulgakov, in persone che sono ex marxisti convertiti all'ortodossia.
Allora, là il y a une tradition à la fois prophétique et gnostique chez les orthodoxes, notamment les orthodoxes russes. Qui refuse d'une certaine manière de penser le social, mais qui attendent une sorte de réalisation temporelle du royaume de Dieu.
Et c'est...
J'ai été de surprise en surprise. Alors le vice-recteur de l'institut que j'ai rencontré m'a posé une question qui m'a un peu surpris.
Sono passato in questo viaggio di sorpresa in sorpresa, il vice-rettore dell'istituto che mi aveva invitato mi ha posto una domanda sorprendente.
Il m'a dit: est-ce que vous avez des nouvelles du diagnostic du laboratoire de Zurich à propos du Saint-Suaire de Turin?
E mi ha chiesto se avevo delle notizie fresche sulla diagnosi che sta per essere elaborata dal laboratorio di Zurigo sulla sindone.
Alors, j'étais à côté d'une statue de Lénine et sous un portrait de Marx.
Avevo di fianco una statua di Lenin ed ero seduto sotto un ritratto di Marx.
J'étais un petit peu surpris du sujet de la conversation.
Ed ero un po' sorpreso dal soggetto della conversazione.
Qui s'est poursuivi de telle manière qu'on a fini, je vous passe les détails, par organiser pour avril prochain à Moscou un séminaire de l'Université Volante Internationale sur l'enseignement social chrétien.
E vi risparmio i dettagli di questa conversazione e vi dirò che si è finiti con l'organizzare per l'aprile prossimo un seminario dell'Università Volante di cui vi ho accennato prima.
Alors, plutôt que des anecdotes, je voudrais simplement évoquer une chose qui me paraît assez préoccupante.
Saltando la parte aneddotica, evocare una cosa che mi sembra molto importante.
D'abord, on a l'impression quasiment physique que quelque chose est en train de naître et de se réaliser. En Union soviétique, du point de vue spirituel et culturel.
Si ha l'impressione quasi fisica che qualcosa sta nascendo dal punto di vista spirituale in Unione Sovietica.
La situation matérielle m'a paru pire qu'il y a 3 ans.
La situazione materiale mi è sembrata peggiorata rispetto a 3 anni fa.
Et le contraste est assez impressionnant.
E il contrasto è molto toccante.
Alors, il y a un professeur qui me dit: mais comment expliquez-vous que nous qui sommes un grand peuple, qui sommes intelligents, qui avons des moyens, on n'arrive pas à se débrouiller au point de vue économique.
Un professore mi ha chiesto: ma come vi spiegate, come si spiega che noi che siamo un grande popolo, che abbiamo grandi mezzi, non riusciamo a sbrogliarci da questa situazione economica?
Alors j'aurais dit: écoutez, c'est peut-être une plaie sacrée qui vous oblige à penser à autre chose.
Ho detto: pensate, forse è una stimmata che vi obbliga a pensare a qualcos'altro.
Je ne sais pas s'il a été convaincu par ma recette économique.
Non so se sia stato convinto dalla mia ricetta economica.
C'est simplement ce que je voulais dire, c'est que cette humiliation que leur cause leur situation économique a en contrepartie pour effet une sorte d'approfondissement très très sensible.
Di fatto questa l'umiliazione che causa a loro questa situazione economica potrebbe avere una contropartita dal punto di vista dell'approfondimento.
Allora, la plupart
contrairement aux autres pays d'Europe centrale, l'Union soviétique ayant fait la révolution depuis 3 générations, un grand nombre de jeunes, de l'intelligentsia notamment, n'ont aucune idée du christianisme, ou très frustre.
Diversamente dagli altri paesi, dai paesi dell'Europa centrale, l'Unione Sovietica ha alle spalle ormai 3 generazioni di rivoluzione e i giovani dell'intelligenza non hanno nessuna idea del cristianesimo oppure idee molto fruste, vaghe.
Alors, hier, d'être chrétien, c'était à la fois eroico e simple.
Ieri essere cristiani era insieme un gesto eroico e un gesto semplice.
Où vous étiez un héros et avec toutes les conséquences que ça qu'il en résultait, ou vous abandonniez et vous apostasiez.
O voi eravate un eroe con tutte le conseguenze del caso, oppure abbandonavate il cristianesimo o vi.
Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus complexe.
Ma oggi la situazione è molto più complessa.
Et les Russes ne sont pas du tout préparés, ni par la formation, ni du côté de l'Église orthodoxe, à faire face à cette nouvelle situation de plus grande liberté.
E i russi non sono assolutamente preparati né dal punto di vista della formazione né dal punto di vista della realtà della Chiesa ortodossa a fronteggiare questa nuova situazione, questi mutamenti.
Et je crois que dans la tradition russe, maintenant on parlait de gnose là tout à l'heure, il y aura une tentation à un développement, il y a déjà beaucoup de sectes qui se multiplient de tout genre, les buveurs de lait, les non-buveurs de lait, etc. Et ça sera une tentation de gnose.
Si parlava di gnosi poco fa, essa è presente da secoli nella tradizione russa, questa tentazione, e si è manifestata in varie forme, bevitori di latte, oui. Non bevitori.
E per rispondere a ce très grave défi, certainement l'Europe de l'Est a besoin d'une aide.
E per rispondere a questa sfida impegnativa, l'Europa dell'Est ha bisogno di aiuto.
Vous avez évoqué tout à l'heure l'Europe du marché commun. Jean-Paul II parle d'une Europe à 2 poumons qui va jusqu'à l'Oural. Et quand il dit ça, je pense que c'est avec cette pensée qu'on va avoir besoin les uns des autres.
Giovanni Paolo II, lei aveva accennato prima all'Europa dei 12, parla di fronte a questi problemi di 2 polmoni che sono entrambi necessari.
Et que nous qui avons perdu le sens de la vertu théologale d'espérance, qui sommes un petit peu blasés, on a besoin de ce dynamisme qui va nous venir de l'Est, et dans l'Est, ils vont avoir besoin des moyens culturels dont nous avons bénéficié.
Noi che abbiamo perso un po' l'aspetto della virtù, della speranza, noi che siamo vissuti, uomini vissuti, abbiamo bisogno di questo slancio che ci potrebbe venire dai paesi dell'Est, i quali a loro volta hanno bisogno dei mezzi culturali di cui noi siamo ricchi.
E per concludere, je dirais che il ne s'agit pas de faire une petite Europe, même de l'Atlantique à l'Oural, qui se referme pour elle-même, c'est quand on. Ceux d'entre vous qui ont un peu voyagé savent que l'importance de ce que pourra apporter l'Europe même au plan d'autres régions. Donc il y a là un enjeu pour toute l'Église qui est, me semble-t-il, extrêmement important et qui va se cristalliser notamment sur les questions, une réflexion sur les questions sociales et anthropologiques.
Allora, si tratta però a questo punto di non rinchiudersi in una piccola Europa, anche se questa piccola Europa è intesa dall'Atlantico agli Urali, ma si tratta di fronteggiare, di avere un punto di vista più universale, perché la messa in gioco, in questione, riguarda tutte le chiese e il punto sarà proprio sui problemi di cui abbiamo parlato stasera, sulla riflessione sociale.
Alors espérons qu'il y a dans Communio Liberatio suffisamment de personnes qui parleront russe pour servir d'interprète dans les futurs séminaires.
Speriamo che nell'ambito di Comunione e Liberazione ci siano abbastanza persone che parlano il russo per fungere da interpreti nei prossimi seminari.
On vous attend à Moscou pour ça.
Vi aspettiamo a Moscou.
Davvero un grazie al professor Delobie per questa sera e per la nostra interprete. E vorrei ricordare solo due strumenti che è possibile già acquistare questa sera. Uno è il libretto rosso, chiamiamolo così, che raccoglie le conferenze della dottrina sociale svoltesi a Milano, quella di Rocco Buttiglione sull'enciclica Sollicitudo, la lezione del professor Del Noce e le due lezioni di Don Negri. Sono anticipate questi saggi da due discorsi del Papa alla CEI e alla Conferenza Episcopale Europea. Inoltre, sempre al banco, è possibile ritirare e informarsi su altri pamphlet dell'Associazione per la Dottrina Sociale Cattolica, che radunano tutte le sette tematiche lungo le quali si è svolta la scuola di dottrina sociale in Italia in questo anno. Sono le tematiche che sono state sviluppate e annunciate a Roma al convegno con il quale si è aperto quest'anno l'intervento e le iniziative sulla dottrina sociale. Ringrazio ancora il professore e tutti gli intervenuti. Arrivederci.